Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
On commence l'année 2023 avec plein d'épisodes intéressants, passionnants et ô combien importants. Et l'épisode d'aujourd'hui est très important parce qu'il parle de dyspareunie, quand la pénétration fait mal. Alors on verra, ce ne sera pas forcément que la pénétration, même si ça tourne quand même pas mal autour. Aussi, je me rends compte que dans l'épisode, on parle beaucoup aussi de couples hétérosexuels parce que c'est souvent aussi la majorité de ces couples-là qu'on a en consultation, que ce soit en kiné avec Astrid ou même moi-même en sexologie. Mais les dyspareunies touchent toutes les formes de couples, touchent toutes les personnes, même si là, l'orientation des dyspareunies est concentrée sur les femmes, les personnes avec un vagin. Dans cet épisode, Astrid va répondre à plusieurs questions que vous, mes abonnés, avez posées sur Instagram, sur le compte Camille parle sexe. On va répondre aux questions déjà de ce qu'est la dyspareunie. Par où on peut commencer quand on souffre de dyspareunie? Quel est le parcours finalement, parcours médical ou le parcours de santé, de rémission pour pouvoir traiter ces douleurs? Quelles peuvent être les positions un peu plus confortables quand on souffre de douleurs? Des conseils pour relâcher, pour apprendre à détendre son périnée? Quelles peuvent être les causes qui peuvent conduire à une dyspareunie? Est-ce que si je souffre d'endométriose, d'un utérus rétroversé, du syndrome d'SOPK, est-ce que ça peut être le fait que je puisse souffrir de dyspareunie? Elle va nous répondre par rapport à tout ça. Bref, Astrid va nous donner tout plein de conseils. Elle va venir rassurer, on va surtout aussi venir expliquer que quand on souffre de douleurs, ce n'est pas une fatalité, c'est à écouter ces douleurs-là et c'est à pouvoir être accompagné par une équipe pluridisciplinaire pour venir traiter des douleurs parce que vous verrez que ces douleurs se traitent, se soignent et ça c'est vraiment rassurant. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode. En consultation sexologique, je reçois assez régulièrement des femmes qui souffrent de dyspareunie, qui sont des douleurs ressenties avant, pendant et ou après un rapport sexuel avec pénétration. Ces douleurs peuvent créer de réelles souffrances avec une baisse d'estime de soi, un manque de confiance dans sa sexualité, des difficultés relationnelles, par exemple. Le positif dans tout ça, c'est que ça soigne et que des solutions existent. Sexologues, kinés, ostéos, sages-femmes, dermatologues, vénérologues, etc. Une approche holistique est le combo gagnant. Pour parler plus en détail des dyspareunies, je reçois à mon micro Astrid Bruno. Elle est kinésithérapeute depuis 13 ans et fait quotidiennement face aux questionnements de ses patientes sur le postpartum, la sexualité et les douleurs pendant les rapports. Très curieuse et autodidacte, elle a lancé son podcast « Exploratrice de l'intime » dans le but de partager ses connaissances sur le corps féminin et la sexualité. D'ailleurs, nous avons enregistré un épisode ensemble qui s'intitule « Comment renouer avec sa sexualité après un accouchement difficile ?» C'est donc avec bienveillance et décomplexion qu'Astrid invite les femmes à devenir les exploratrices de leur intimité pour retrouver le chemin d'une sexualité épanouie. Astrid, bienvenue sur le podcast.
Merci beaucoup Camille, merci de me recevoir.
Ça fait plaisir, comme je disais, de te recevoir après des échanges qu'on a eus sur ton podcast d'ailleurs. Et comme je te disais en off, toute l'énergie que tu mets dans ton podcast, combien ça fait du bien aussi aux femmes qui l'écoutent d'avoir des conseils. Et c'est très concret en plus ton podcast avec des épisodes conseils, et donc je le recommande souvent. Donc merci déjà pour tout ce travail que tu fais et que tu divulgues, informes au plus grand nombre. Alors, on parle de dyspareunie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est les dyspareunies ?
Alors oui, avec plaisir. Alors, les dyspareunies, de manière un petit peu plus vulgarisée, on appelle ça des douleurs au rapport. Donc, c'est très vaste. Les dyspareunies, ces douleurs, en fait, elles peuvent être présentes pendant un rapport sexuel, mais aussi après un rapport sexuel. Ce sont des douleurs qui vont toucher principalement la zone de la vulve et la zone du vagin. On va souvent les dissocier en deux types de dyspareunies. On va parler de dyspareunies superficielles, pour les dyspareunies qui vont toucher justement plus à la zone de la vulve, et les dyspareunies profondes, pour les dyspareunies qui vont plutôt aller chercher des points douloureux au niveau de l'utérus, des ovaires, ou en tout cas de la zone digestive. Il y a beaucoup de symptômes qui vont être en lien avec les dyspareunies. C'est très très vaste, ce qui peut faire aussi que ça peut générer beaucoup de confusion chez les personnes qui vont se retrouver à avoir ce type de douleur. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les dyspareunies sont souvent mises en évidence au moment ou après un rapport sexuel.
Et quand on parle de rapport sexuel, on parle bien d'un rapport sexuel avec pénétration, ou des douleurs peuvent apparaître aussi s'il n'y a pas de pénétration mais qu'on touche en externe la vulve?
Les douleurs peuvent apparaître aussi en dehors d'un rapport pénétratif. Souvent, ça va être mis en évidence dans un rapport pénétratif, mais ce n'est pas spécifique et caractéristique de toutes les dyspareunies. Par exemple, pour les dyspareunies qui sont superficielles, qui sont caractérisées par des symptômes du type sensation de brûlure, sensation comme si j'avais du papier qui me découpait au niveau des lèvres externes ou des lèvres internes, des sensations d'inflammation. Toutes ces douleurs-là peuvent être provoquées par le simple contact, en fait, d'un tissu avec la vulve ou par de simples frottements. Donc, il n'y a pas forcément de pénétration à proprement parler qui va déclencher ces symptômes-là. C'est pour ça qu'on va aussi les qualifier de dyspareunies d'intromission, parce qu'on n'est pas vraiment dans l'acte pénétratif, on est dans le juste avant la pénétration et ça peut déjà générer des douleurs.
Oui, comme tu disais aussi, il y en a certaines personnes qui vont dire déjà rien qu'en marchant, en ayant des jeans serrés, il va y avoir cette sensation de brûlure. Donc, on parle de douleur au rapport, mais en fait, c'est finalement des fois bien plus large que ça.
Exactement. Et c'est pour ça que c'est important de se rendre compte que ces douleurs, elles peuvent être présentes pendant un rapport, mais aussi après, et que le après va aussi donner des indications en fait sur qu'est-ce qui peut participer à provoquer mes symptômes, les accentuer aussi, et peut-être aussi les atténuer.
Oh oui, on va en parler de ça juste après, parce que justement, je posais, sur mon compte Instagram, du coup, Camille parle sexe, je demandais à mes abonnés, je dis que je te recevais, la thématique, et donc s'il y avait des questions, et waouh, c'est la première thématique où il y a autant de questions, et on le sait, toi et moi, on reçoit énormément du coup de personnes, et surtout en sexo, c'est beaucoup par rapport aux douleurs, oui. Donc ça fait mal quand on entend ces histoires-là, et surtout ça fait mal quand on se dit, waouh, ça fait des années qu'elle se trimballe ça, qu'elle souffre avec ça, alors qu'il y a des solutions qui existent, et on va venir aussi là-dessus, et on va expliquer aussi quel peut être l'accompagnement, si justement vous ressentez des douleurs. Mais donc dans les questions qui revenaient souvent, c'était quelles peuvent être les causes, parce qu'il y en a qui disaient, j'ai de l'endométriose, est-ce que c'est pour ça que j'ai mal pendant les rapports? Est-ce que parce que j'ai un utérus rétroversé, je peux avoir des douleurs? Ou on vient de me diagnostiquer un syndrome SOPK, des syndromes des ovaires polykystiques, est-ce que c'est pour ça que j'ai mal? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les causes qui peuvent donner du coup lieu à des douleurs ?
Les causes qui vont être à l'origine des disparus unis sont vraiment multiples. C'est ce qui fait que c'est... Il n'y a rien de simple. On aimerait que ce soit simple et qu'on puisse dire « Bon, bah, c'est ça, c'est ton rapport avec ça et voici la solution. » Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est aussi la complexité et la beauté du corps humain qui nous amène aussi à faire face à ce genre de situation. Donc, pour essayer d'être la plus claire possible, au niveau des causes, on va avoir différentes causes. On va avoir des causes dites plutôt organiques, c'est-à-dire en rapport avec le fonctionnement du corps humain. C'est-à-dire qu'une problématique de sécheresse vaginale peut être à l'origine de douleurs au rapport. C'est-à-dire qu'un manque de lubrification ou une lubrification qui n'est pas efficiente va générer des frictions et des frottements qui vont être à l'origine de douleurs au rapport.
Le fait ça, d'avoir... On aime plutôt bien quand c'est ça, parce que c'est assez simple du coup comme traitement lubrifiant, quoi.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que la solution, ça va être de proposer un adjuvant en termes de lubrifiant qui va effectivement tout de suite permettre de retrouver une sensation plaisante lors de la pénétration. Il y aura quand même d'autres choses à explorer pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi cette lubrification, elle a été défaillante à un moment donné. Mais effectivement, là, la solution, elle est simple. Mais c'est pas la seule cause qui existe. Parmi les autres causes de disparus unis qui sont plutôt portées sur le somatologique, l'organique, on va aussi avoir des problèmes de type infection, les IST, les infections urinaires à répétition, les mycoses qui vont venir vraiment complètement dérégler le microbiote présent au niveau de la vulve. Ça peut aussi en fait générer des sensations douloureuses parce que la muqueuse va se retrouver, enfin la muqueuse vulvaire en tout cas, va se retrouver en état d'inflammation plus ou moins constante, plus ou moins récurrente, et ça peut générer justement des douleurs. On va être face à un phénomène d'hypersensibilisation de la muqueuse vulvaire. Donc ça aussi, quand on fait face à ce type d'infection à répétition, ça peut être un indice sur le pourquoi on peut se retrouver parfois à avoir des douleurs au rapport. Il va y avoir d'autres causes qui vont être pour le coup un petit peu plus larges et plus systémiques. Donc là, on va plutôt parler en fait des pathologies du type endométriose, SOPK, les pathologies qui vont aller générer en fait des déséquilibres hormonaux, les pathologies qui vont aller toucher le système digestif. Ça aussi, ça va être à l'origine de beaucoup de disparus unis, tout simplement en fait parce que ce sont des problématiques qui vont toucher le système génital, mais pas que. Le fait que ça soit aussi en rapport avec le système digestif, parfois ça peut aller jusqu'au système pulmonaire en fonction de l'étendue, par exemple, de certaines pathologies comme l'endométriose, ça peut véritablement avoir en fait une étendue qui va être très très grande, mais qui va aussi se répercuter sur la sphère sexo et donc sur les douleurs au rapport. On va aussi avoir d'autres causes organiques du type... je pensais à quelque chose et c'est parti, mais ça va revenir.
Organique. Attends, je réfléchis avec toi, c'est tout, c'est le matin, c'est l'un des matins, je t'en demande beaucoup.
Non, pas du tout. J'étais en train de penser à autre chose en même temps. Ah oui, voilà, c'était en rapport avec le postpartum. Le postpartum peut être un gros pourvoyeur de douleurs au rapport. On ne le dit pas assez parce qu'on part du principe que après l'accouchement, je vais imaginer, hein, et si vous n'avez pas l'habitude de m'écouter, vous allez voir que j'ai un franc-parler qui est assez caractéristique. L'accouchement peut être parfois, après l'accouchement, le postpartum, un champ de bataille. Et beaucoup vont penser que c'est normal, en fait, d'avoir mal. Parce qu'après tout, on a accouché. Oui, mais non. D'accord ? Non, ce n'est pas normal d'avoir mal, même après avoir accouché. Effectivement, l'accouchement peut aller générer des déchirures, peut aller générer des épisiotomies. Il peut y avoir des phénomènes de cicatrisation du postpartum qui peuvent être plus ou moins sensibles en fonction de notre phénotype ou de notre ethnie ou aussi de notre capacité génétique à pouvoir créer des cicatrices qui vont être plus ou moins épaisses ou plus ou moins souples. Il va y avoir plein de facteurs qui vont rentrer en compte. Et ces phénomènes-là, ces problématiques justement de cicatrisation qui vont générer des fibroses ou de cicatrisation qui vont être parfois placées trop trop près d'un passage nerveux, tout ça, ça peut être aussi à l'origine de douleurs au rapport. Donc le postpartum, pour ce qu'il est, peut aussi être générateur de douleurs au rapport, et c'est important de le savoir et de pas simplement se dire « bon bah j'ai accouché, c'est normal que j'ai mal, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça va finir par passer ». Non, au bout d'un moment en fait ce n'est pas normal. Quand il s'est déjà écoulé plus de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, et que la situation n'a pas évolué d'un poil, ce n'est pas normal. Il ne faut pas hésiter à en parler ou à votre gynéco, ou au kiné ou à la sage-femme qui vous suit dans votre rééducation périnéale, ce sont des personnes qui sont là pour justement vous accompagner dans ce type de problématique. La rééducation du postpartum, la rééducation périnéale du postpartum a aussi cette vocation-là. Donc, il ne faut pas rester seul dans votre coin en pensant que ça va finir par passer. Non, 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 non.
Non, il faut être bien accompagné. En plus, peut-être qu'on l'abordait déjà dans l'épisode « Comment renouer avec sa sexualité après un accouchement difficile ?» Et puis même, comme tu disais, postpartum, et ça peut être pour la première fois où on ressent des douleurs. C'était mon cas, du coup, en postpartum. Mmh. Et effectivement, il y a des choses qui existent, puisque maintenant, aujourd'hui, à 6 mois postpartum, je ne ressens plus de douleurs, mais ça m'a demandé d'être accompagnée. Alors bien sûr, j'ai utilisé ma casquette de sexologue, heureusement, mais j'ai été aussi accompagnée avec une kiné, avec une ostéo. On a vu qu'il y avait aussi une inflammation du périnée à la suite de l'accouchement. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être possibles à faire. Et justement, peut-être après les causes, on parlera justement de cet accompagnement. Quand on a des douleurs, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi.
Mmh. Oui, tout à fait. Donc, voilà, là, c'est un tableau assez large des causes, en tout cas organiques, qui peuvent être à l'origine des douleurs au rapport. Maintenant, il y a un autre versant qui va être le versant plutôt psychologique, qui sera aussi à l'origine de douleurs au rapport. Le fait d'avoir un rapport à la sexualité qui est compliqué peut être générateur de douleurs au rapport, tout simplement parce que on va être plus encline à ressentir du stress, de l'anxiété, de l'appréhension aussi. Pour peu qu'on ait eu aussi des expériences sexuelles négatives, ou en tout cas peu satisfaisantes, notre corps et notre esprit va se mettre dans une disposition plutôt de crainte, plutôt que de plaisir, dans justement cette idée d'aller dans un rapport sexuel avec l'autre. Le fait d'être aussi assez, comment dirais-je, je perds mes mots, je crois que tu as raison, c'est le matin.
C'est le matin. Oui, bah, tu parlais de stress et tout ça, et c'est vrai qu'on voit quand même un certain profil de personnes quand il y a des douleurs, et c'est vrai que souvent ce qui va revenir, c'est quand même des personnes qui sont quand même assez anxieuses de manière générale, mais qui ça vient aussi s'appliquer du coup dans la sexualité, assez anxieuse, assez stressée, avec des fois une estime d'elle-même qui est déjà plutôt basse, et que cette difficulté va renforcer finalement ce stress, cette anxiété, cette baisse d'estime de soi. Donc on entre facilement dans un cercle vicieux aussi.
Effectivement. Le fait aussi d'avoir un relationnel qui va être compliqué quand on est avec un partenaire qui est un partenaire occasionnel ou un partenaire qui est régulier, ça va aussi beaucoup jouer en fait sur la qualité des rapports qu'on peut avoir, et ça peut aussi en fait, si le relationnel en tout cas ne se passe pas bien, qu'on n'est pas dans un environnement où on se sent sécure, où on se sent en confiance, où on se sent écouté, où on se sent reconnu, ça peut aussi être un facteur qui va accentuer des douleurs au rapport, tout simplement parce que le stress, l'anxiété va être générateur d'augmentation des tensions musculaires, d'augmentation du tonus musculaire, et ça va bien sûr en fait venir accentuer les douleurs au rapport. Donc c'est des facteurs qui sont importants, le fait de se rendre compte dans quel environnement on évolue, avec qui on évolue, comment on se sent avec soi-même et comment on se sent aussi avec son ou sa partenaire, ça va être des facteurs très très importants qui vont beaucoup influencer finalement notre état d'esprit, la façon dont on va se sentir dans le rapport sexuel.
Ouais, donc on voit vraiment différentes causes, donc c'est jamais, comme tu disais, aussi simple que ça. Très souvent c'est plutôt un combo, encore une fois j'aime bien utiliser ce mot. Et donc si par exemple voilà, on se rend compte qu'on a des douleurs, qu'est-ce qu'on peut faire avant même les conseils, qui on peut aller consulter, quelle est la première étape, par où commencer?
De manière générique, en tout cas en France, parce que toi je sais que tu es en Belgique, en France, le parcours de santé, ce serait, je vais consulter mon médecin. Si mon médecin est un peu informé sur la question, il va pouvoir me donner des informations, mais, la vie n'est pas un conte de fait, et ils ne sont pas souvent informés sur ces questions, donc je dirais plutôt déjà commencer par aller voir votre gynécologue. Et même là, peut y avoir des sketchs. On va appeler ça des sketchs pour essayer d'atténuer la chose, mais c'est vraiment pas drôle du tout, en fait, pour les patientes qui se retrouvent face à des professionnels de santé qui ne sont pas à l'écoute, d'une part, qui ne sont pas formés et qui ne prennent pas réellement en compte, en fait, leurs demandes. Donc, dans un monde idéal, le fait d'aller voir votre gynécologue devrait être le bon point d'entrée dans votre parcours de rémission. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je vous conseillerais, si vous êtes en France, de ne pas hésiter à aller chercher des professionnels de santé, tout type de professionnels de santé, et je vais vous les énumérer, bien sûr, mais des professionnels de santé qui sont formés à ces questions-là. Donc, il y a des associations, comme par exemple, la première à laquelle je pense, c'est les Clés de Vénus, bien sûr. Voilà, qui a créé un annuaire de professionnels de santé qui sont sensibilisés et formés à ces questions, et ça va vous faire gagner un temps fou, parce que ça va vous éviter d'errer, en fait, de professionnel en professionnel qui ne va pas forcément correctement prendre en compte votre demande. Donc, le meilleur point d'entrée, ce serait gynécologue formé à ces questions-là. Si c'est plutôt une problématique vulvaire, avec une problématique d'inflammation, d'hypersensibilisation et autres, le meilleur point d'entrée, ce serait plutôt une dermatologue spécialisée dans les pathologies vulvaires, donc une dermatologue vénérologue, comme tu l'as cité en introduction. Ça, ce serait le meilleur point d'entrée, parce que ces professionnels de santé vont être à capacité de pouvoir identifier au fur et à mesure de l'interrogatoire, quel est le diagnostic le plus plausible pour vos douleurs. Ils vont pouvoir aussi vous prescrire des examens d'imagerie ou bien des analyses pour pouvoir justement éliminer au maximum en fait des problématiques d'infection ou de pathologie autre. Et à la suite de ça, souvent on procède par élimination pour être sûr justement d'avoir un diagnostic qui soit le plus pertinent possible. Ça va vous permettre après d'avoir un traitement d'ordre médicamenteux. Ça peut être possible pour pouvoir justement calmer les douleurs ou pas. Et à la suite de ça, ça va être intéressant d'avoir un relais qui va être plutôt fait par des professionnels de santé paramédicaux du type kinésithérapeute, s'il y a besoin d'aller pouvoir travailler directement en fait sur la sphère périnéale et la sphère vulvaire ou la sphère vaginale pour aller travailler en massage périnéal ou retravailler la mobilité du bassin ou du dos. Il peut y avoir beaucoup d'interactions en fait de différentes zones du corps et qui vont influencer le tonus du périnée et du coup les douleurs au rapport. Le fait d'aller travailler ça aussi avec des sages-femmes qui sont tout à fait aussi habilitées à avoir cette pratique de la rééducation périnéale, le fait d'aller travailler avec un ostéo pour aussi retravailler tout le système digestif, le système articulaire, etc. Ça va être extrêmement intéressant. Sur l'aspect psychologique, le fait d'avoir une prise en charge par une psychologue ou une sexologue ou une sexothérapeute, ça va être aussi extrêmement intéressant quand vous avez justement une difficulté à vous vivre sereinement et de manière complètement épanouie dans votre sexualité. Comme je l'ai dit au départ, les problématiques de dyspareunie, c'est pas juste ou tout blanc ou tout noir, c'est plutôt des nuances de gris. Et donc, en fonction de votre parcours, de sa complexité, ça peut être intéressant d'avoir un point de départ qui sera plutôt orienté sur le corps, mais en fonction de votre progression et des points de difficulté qui peuvent perdurer au bout d'un certain temps, peut-être envisager aussi d'avoir en parallèle ou dans un deuxième temps, ce sera à vous de décider qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant et le plus adapté, une prise en charge aussi de l'ordre psychologique, parce que ça peut vous aider à aller déverrouiller des croyances limitantes ou en tout cas aussi vous aider à avoir une meilleure estime de vous-même pour pouvoir justement repartir de manière mieux outillée, aussi bien au niveau corporel qu'au niveau psychique dans votre sexualité. Donc voilà, ce serait le parcours idéal que j'aurais proposé à mes patientes, mais c'est toujours à adapter en fonction de chacune. Là, par exemple, je pense aux personnes qui souffrent de SOPK ou de personnes qui ont de l'endométriose. Pour ces personnes-là, ça va être intéressant qu'elles aillent consulter un endocrinologue. Ça va être extrêmement important, en fait, de pas juste aller voir le médecin généraliste du coin, mais d'aller directement voir un endocrinologue, parce que pour les personnes souffrant d'SOPK, il y a une problématique hormonale. C'est ça, en fait, le nœud de cette pathologie, et donc il faut aller voir quelqu'un qui est spécialisé en fait dans la connaissance des hormones, par exemple.
Super intéressant, et ouais, et c'est ce que je disais en intro, c'est vraiment un combo, et des fois on voit hein, le parcours de rémission et chalonné et semé d'obstacles, et comme tu disais, souvent on reçoit les patientes et en fait elles ont déjà vu plusieurs gynécologues et ça n'a pas été pris en charge et elles ont été trimballées à droite à gauche, ce qui a fait que renforcer la baisse d'estime d'elles, le fait qu'elles sont peut-être pas normales, puisque même si les professionnels ne connaissent pas, ça veut dire qu'elles sont les seules au monde à avoir ça. Et donc, ça crée une boucle de renforcement vicieuse, négative, inconfortable vis-à-vis de ça. Et donc, c'est important, effectivement, même. Bah, moi, du coup, quand je les reçois, souvent aussi, et parce que souvent aussi, les gynécologues connaissent pas toutes les pathologies vulvaires et vont mettre tout ça sous le dos des mycoses avec un traitement contre les mycoses qui va faire que ça va être juste quelque chose de chronique, des douleurs chroniques. Mmh. Moi, une des premières choses, souvent, je recommande, si elles peuvent, de prendre un rendez-vous avec un ou une dermatologue, vénérologue, parce que là, ça permet de mettre un diagnostic clair, net, précis. Et comme ça, on a un traitement adapté s'il y a besoin. Et en parallèle, moi, je parle plutôt quand même en parallèle, mais après, ça peut être en parallèle et séquentiel, mais un traitement aussi, un accompagnement psychosexo, donc soit avec des psychologues, soit avec des sexologues, puisqu'on est aussi spécialisé là-dedans, pour venir toute cette boucle-là, comme on disait, de croyances limitantes, ou même, en fait, s'il y a un traitement, bah, le traitement, ça ne va pas forcément donner confiance en soi. Ça peut atténuer les douleurs, mais ça ne va pas aider sur la confiance en soi. Mmh. Ça ne va pas aider si on n'a pas une relation avec un cadre rassurant, confiance sexuelle et tout ça. Donc, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire et on insiste là-dessus parce qu'on voit vraiment que ça aide par rapport au traitement et à la rémission, comme tu disais.
Exactement, c'est hyper important.
Si, là, pour l'instant, les personnes ont des douleurs, sont peut-être dans un processus en même temps, accompagnées par d'autres professionnels, et qu'elles ont quand même envie de vivre une sexualité qui peut être épanouissante en parallèle de ces traitements-là, est-ce qu'il y a des positions qui peuvent être un peu plus confortables, qui peuvent peut-être même atténuer les douleurs quand je parle de position, c'est avec des rapports avec pénétration. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être envisageables ou il faudrait arrêter tout rapport avec pénétration quand on a des douleurs?
Alors, ça va dépendre. Il y a, on va dire, je vais un petit peu caricaturer, mais on va dire qu'il y a deux cas de figure. Il va y avoir le cas de figure de patientes qui vont vraiment tenir à continuer à pratiquer la pénétration, mais pas pour les bonnes raisons.
Mm-hmm. Bien le dire.
C'est-à-dire qu'elles ne vont pas vouloir pratiquer la pénétration parce que c'est vraiment quelque chose qui leur plaît, parce que c'est vraiment quelque chose qui leur fait du bien, parce que c'est vraiment un moment d'intimité, en fait, qui compte à leurs yeux. Elles vont vouloir continuer à pratiquer la pénétration parce qu'elles vont penser que si elles ne le font pas, leur partenaire risque de se faire la malle. Ce n'est pas une bonne raison. Ce n'est pas une bonne raison parce que en faisant ça, vous mettez de côté en fait vos besoins et votre corps est en train de vous donner un signal fort qu'il a besoin justement qu'on s'occupe de lui et vous outrepassez ce signal d'alerte pour continuer à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et ça, ce n'est pas une bonne raison de continuer à avoir des pratiques pénétratives. Donc, quand on est dans ce cas de figure-là, j'aurais tendance à dire que non. Laissez votre corps tranquille. Laissez votre corps, justement, prendre le temps nécessaire pour pouvoir se remettre avec tout ce dont on a parlé tout à l'heure, avec justement le petit itinéraire de rémission dont on vient de parler à l'instant. Et ensuite, vous allez pouvoir justement repartir sur une pratique pénétrative. Sachant que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pratique pénétrative que vous ne pouvez pas avoir de sexualité.
Oui, et même avant même aussi, et en parallèle, et c'est là où on voit que c'est important aussi des fois des séances en couple, puisque là, imaginons que c'est pour ces mauvaises raisons, c'est de se questionner en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas confiance en son partenaire et qu'on pense qu'il va partir. Est-ce que c'est parce qu'il y a des menaces, et donc là, il y a des choses à aller voir, ou est-ce que c'est parce qu'il y a cette croyance-là, et là aussi, il y a des choses à aller travailler?
Exactement, parce que parfois, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des patientes où justement je leur tenais ce discours-là de sorte à ce qu'elles puissent prendre conscience en fait que ce qui se jouait là en fait était peut-être plus complexe que ce qu'elles me disaient et elles de se rendre compte que finalement, en discutant avec leur partenaire, bah, ils étaient tout à fait ok en fait à l'idée de ne pas avoir cette pratique-là pour un temps déterminé, un temps donné, le temps que ça aille mieux. Parce que parfois, elles sont dans une optique où elles gardent en fait ces difficultés pour elles-mêmes, elles serrent les dents en se disant que bah non, je veux pas qu'il sache que j'ai mal parce que sinon ça va lui faire peur ou il va pas avoir envie de continuer à avoir une sexualité avec moi et du coup moi je vais me sentir moins femme, etc. etc. Non, ce ne sont pas des bonnes raisons. Faites-vous confiance d'une part, parce que votre corps a besoin que vous lui fassiez confiance pour qu'il puisse donner 100% de ses capacités afin de se remettre de cette difficulté, parce que c'est quelque chose de passager. Il faut aussi le prendre en compte, même si ça, pour vous, ça dure depuis longtemps, parce qu'il y a beaucoup d'errances médicales, ça a vocation à être passager. Ça n'a pas vocation à durer dans le temps. Et je sais que c'est pas facile à entendre, parce qu'il y a des personnes qui vivent ces situations depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années, mais ça n'a pas vocation à durer ad vitam aeternam. Et ça, c'est important de le savoir. Et d'autre part, faites aussi confiance à votre partenaire. Donnez-lui un petit peu de crédit et c'est aussi intéressant de savoir en cas de difficulté qui vous avez en face de vous.
C'est un bon signe, c'est un bon test ça pour le couple.
Effectivement. effectivement, si le truc part en cacahuète, ça va être peut-être le moment de se poser quelques petites questions. Mais ce n'est pas le sujet de ce podcast.
Non, on ne va pas créer des ruptures là tout de suite.
Non, ce n'est pas le but, On veut des couples heureux. On veut des personnes heureuses. Mais voilà, ça, ce serait déjà une première situation. En tout cas, voilà, comme j'ai dit, hein, je caricature, je donne les grandes lignes. Qui pourrait me faire dire... Là, non, c'est pas vraiment la priorité à l'instant T, en fait, de continuer à avoir cette pratique pénétrative. Et il va y avoir un autre cas de figure, ou d'autres cas de figure, où là, cet attrait pour la pénétration va être véritablement en rapport, en fait, avec le plaisir. Il va y avoir des femmes qui vont véritablement vivre principalement leur sexualité autour de la pratique pénétrative. Je tiens à le rappeler. La sexualité, avec un grand S, et je dirais même les sexualités, avec un grand S, ne tournent pas uniquement autour des pratiques pénétratives. Mais il y a des personnes pour qui c'est extrêmement important de pouvoir continuer à les pratiquer. Et c'est tout à fait entendable. Donc quand on est dans cette situation où on est avec un partenaire qui est à l'écoute, un partenaire qui est soutenant, un partenaire qui vous met en sécurité, un partenaire qui vous pose régulièrement la question, en tout cas qui est capable d'entendre quand vous dites non, ou quand vous dites que vous êtes mal à l'aise, ou quand vous dites qu'il faut faire une pause, ou quand vous demandez, vous exprimez un besoin, quand vous êtes dans cette situation-là, alors oui, envisager de continuer la pénétration me semble être une chose possible. Mais ce sera toujours à réguler en fonction de votre ressenti, en fonction de votre sentiment et en fonction de vos sensations. À partir du moment où le plaisir commence à ne plus être présent, où c'est la douleur qui reprend le pas, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut moduler. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément tout de suite arrêter, mais il faut moduler. C'est peut-être le moment de faire une pause, c'est peut-être le moment de boire un verre d'eau, c'est peut-être le moment de, je sais pas moi, discuter du dernier épisode de Netflix qui parle de Wednesday. I don't know. Faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ne continuez pas dans la douleur en vous disant « bon bah, on a commencé, faut terminer ». Non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que c'est ce qui va justement aller ancrer dans votre corps et dans la mémoire de votre corps que la sexualité est associée à quelque chose de douloureux. Et c'est exactement ce sur quoi on essaye de revenir avec un traitement pour les dyspareunies. Donc, quand les choses commencent à devenir moins agréables, on module, on fait quelque chose de différent. Ça peut être l'occasion de repartir sur des pratiques non pénétratives ou de repartir sur un moment de tendresse ou simplement, en fait, rester immobile en se regardant dans les yeux. Ça peut être aussi extrêmement intime et romantique. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais je vous l'invite à le faire. Voilà,
y a plus intime même que la pénétration, de se regarder dans les yeux.
Exactement. Il y a plein d'autres choses à faire. Et ça ne veut pas dire que un quart d'heure ou une demi-heure après, vous n'allez pas reprendre votre pénétration. Si, en fait, tout est possible. Mais ce champ des possibles, vous ne pourrez l'explorer que si vous vous laissez la possibilité de... Si vous vous donnez la permission de pouvoir aller vers ce qui vous fait envie à cet instant-là. Et c'est aussi ce dont vous avez besoin. C'est important d'être capable de reconnaître ses propres besoins. Et dans cette optique, justement, de pouvoir continuer à pratiquer la pénétration alors qu'on a des douleurs au rapport. D'ailleurs, ça, j'en parle dans le prochain épisode de mon podcast. Donc, du coup, t'as un petit bonus, tu vois.
Il sera déjà sorti, du coup, parce que là, la diffusion est en janvier. On est en train d'enregistrer en novembre, mais la diffusion est en janvier.
Exactement. Donc, quand vous écouterez ça, ça vous donnera peut-être l'occasion, enfin, en tout cas, l'envie d'écouter cet épisode de mon podcast. Mais... dans l'épisode que je sortirai bientôt, qui sera justement mon avis sur le livre Slow Sex. Dans ce livre-là, il y a une pratique que j'ai trouvée hyper intéressante et dont j'avais jamais entendu parler avant et auquel j'avais jamais pensé, c'est la pénétration sans érection. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement, quand j'ai repensé à mes patientes qui ont des douleurs au rapport, je me suis dit « mais ouais ». Ça peut être un truc hyper intéressant. Déjà parce que ça permet d'appréhender le sexe masculin en dehors en fait de ce prisme du sexe phallique extrêmement fort, extrêmement rigide, extrêmement dur, extrêmement volumineux, ce qui peut être quelque chose en fait qui psychologiquement peut faire peur à certaines patientes qui ont justement peur de la pénétration. Donc le fait justement de plutôt aller chercher la pénétration sans érection, ce qui est physiquement possible, hein. Anatomiquement c'est possible, je tiens à le dire quand même, parce que même moi j'ai bugué quand j'ai lu Céline, elle me dit what? Mais si, en fait c'est tout à fait possible, et c'est extrêmement intéressant parce que on rentre dans une optique d'écoute, mais d'écoute vraiment quelque chose de très profond sur cette idée que tiens, là, en fait, on est dans une pratique pénétrative et on n'est pas obligé d'aller chercher une pénétration complète, en fait, du sexe masculin. Ça peut être juste la pénétration du gland et on s'arrête là et c'est déjà une pratique pénétrative. Mais être dans cette pénétration avec un sexe qui n'est pas en érection, ça va être l'occasion d'être véritablement à l'écoute des sensations des sexes, du sexe masculin et du sexe féminin, ou du sexe féminin et du sex toys, bref, ce que vous voulez, le combo, la combinaison qui vous fait du bien et la combinaison qui vous convient, mais c'est l'occasion d'être à l'écoute. Et ça, je trouve que c'est une pratique qui est en lien avec la pénétration et qui ne va pas forcément aller renforcer justement cette boucle négative autour de la sexualité et autour de la pénétration qu'on peut souvent rencontrer quand on veut continuer la pénétration alors qu'on a des douleurs.
C'est super, j'adore. Et moi, tu sais, dans ma pratique de sexologie, j'applique beaucoup de la pleine conscience parce qu'il y a plein d'outils qui sont formidables pour justement déjà décentrer pas mal de choses, cette performance, et être à l'écoute des sensations. Par exemple, donc c'est ce que tu disais, la pénétration sans érection, ça renvoie du coup à tout un imaginaire qui est différent. Et là, encore une fois, on voit aussi, parce que ça, tu vois, on peut bien sûr informer les patientes qu'on a, mais je trouve encore une fois que ça a son importance et son optimisation si on a le couple, parce que ça va venir challenger l'homme aussi, qui n'a pas cette habitude-là aussi de faire des choses avec un pénis qui n'est pas en érection.
Exactement.
Donc, je trouve ça très intéressant à mettre en place dans la relation. Et dans la même lignée du slow sex, il y a aussi, alors là, c'est pas avec pénétration, mais il y a la position du ciseau, en fait, où on va venir, les jambes vont venir s'entrelacer, on peut le faire nu, et donc il y aura ce contact de sexe contre sexe, mais sans faire quelque chose. Déjà, c'est de venir un peu venir être dans l'accueil, dans l'écoute de ce qui se passe, être au contact des organes génitaux contre des organes génitaux, et que ça va venir rassurer les patients. Parce que comme tu disais, pour beaucoup, des fois, il y a cette image que c'est apeurant, ça fait peur, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'est pas trop familière avec cette zone, donc la vulve, et avec aussi le pénis si on est dans des couples hétérosexuels. Donc là, ça permet vraiment en fait de venir se familiariser, et qui dit se familiariser dit qu'on est un peu plus rassuré. Donc il y a ces positions-là, position du ciseau, position pénétration sans érection. Je ne sais pas s'il y a une autre position, moi je sais que quand j'avais des douleurs, vraiment de me mettre au-dessus de mon partenaire et un petit peu plus incliné, ça permettait une plus grande ouverture, on va dire, de l'entrée vaginale et du coup des douleurs qui s'estompaient un peu plus rapidement aussi.
Exactement, le fait d'être dans la position andromaque, donc andromaque assise, en étant complètement à la verticale, mais assise sur son partenaire, ou andromaque plutôt couché, c'est une excellente position qui va permettre d'avoir un meilleur contrôle de la progression, de la pénétration, de l'angulation du pénis aussi, parce que on le dit pas forcément suffisamment, mais les personnes qui se connaissent le mieux, qui connaissent le mieux notre corps, en fait, c'est nous-mêmes. Donc, attendre que ce soit notre partenaire qui trouve exactement the right spot pour pouvoir justement nous faire décoller, c'est pas toujours la meilleure stratégie, parce que c'est vous qui êtes au courant en fait des sensations que vous ressentez, et c'est vous qui êtes la plus à même de pouvoir aller les chercher. Donc n'hésitez pas justement à aller chercher et faire des petits ajustements au niveau de la position, au niveau du rythme, donner ces informations et ce feedback à votre partenaire aussi, afin qu'il puisse justement que vous continuiez ensemble du coup à aller vers le plaisir. Donc c'est effectivement cette position d'andromaque couché ou andromaque assise, je trouve qu'elle est hyper intéressante. La position de la cuillère aussi, je trouve que c'est une position qui est extrêmement intéressante, parce que je trouve qu'elle invite à beaucoup de tendresse. Elle invite à beaucoup de tendresse, et les parties du corps qui sont en contact sont encore plus élargies, elles sont encore plus grandes. Ça peut être l'occasion, même s'il n'y a pas ce contact visuel, d'avoir une meilleure conscience du corps de l'autre à travers les caresses qu'on va pouvoir avoir, à travers le contact au niveau du bassin, au niveau des jambes, au niveau du torse. Et c'est une position qui invite aussi, je trouve, à beaucoup de douceur et à beaucoup de lenteur. Donc ça va aussi très bien dans la lignée du slow sex. Après, il y a la position du lotus qui peut être aussi intéressante. Donc pour celle-ci, j'invite quand même à faire des petits tests, vérifier si vous êtes capable de faire un petit squat sans avoir trop les hanches qui grincent ou des choses comme ça, parce que ça demande un peu de mobilité.
Ça, c'est vrai. Tu peux expliquer la position lotus pour les personnes? Alors, c'est dur quand on doit expliquer des positions de manière comme ça, mais voilà, si tu arrives à les expliquer avec tes mots.
Oui, bien sûr. En fait, la position du lotus, imaginez en fait que vous êtes en position assise avec les jambes fléchies, les chevilles croisées, et vous allez avoir votre partenaire qui va être assis en face de vous de la même manière, et vos jambes, en fait, vont se retrouver à l'entourer. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à croiser en fait les jambes au niveau de son dos et vous allez pouvoir poser vos mains au niveau de ses épaules, au niveau de son visage, au niveau de son torse. Enfin, il va y avoir un véritable face-à-face et dans ce face-à-face, on peut aussi avoir un simple contact génital ou une pénétration en fonction de ce que vous avez envie de pratiquer à cet instant. Et c'est une position qui est intéressante parce qu'il va y avoir tout ce côté rapprochement physique à proprement parler, mais aussi beaucoup le regard. On va vraiment être dans une optique où on va pouvoir synchroniser les respirations, être vraiment dans l'observation et dans l'accueil en fait de l'autre, et aussi accepter d'être accueilli et observé par son partenaire dans cette position-là. Donc c'est une position, je trouve, qui invite aussi beaucoup à la vulnérabilité, et je trouve que c'est une notion très 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 intéressante en sexualité.
Ouais. Et alors là, pour moi, et bien sûr, on l'adapte souvent avec nos patientes aussi, parce que ça demande cette position-là. Par exemple, si je prends celle du lotus, comme tu disais, vulnérabilité, se regarder dans les yeux, ça demande quand même d'être déjà à l'aise avec ça, parce qu'on ne veut pas forcément rajouter des choses inconfortables, puisque si la personne est inconfortable, bah, elle va être crispée, et finalement, qui dit crispée, dit périnée contractée, donc dit douleur. Donc, on peut aller en progression, effectivement, avec tout ça, et comme tu disais, on peut aussi aller en progression en termes de faire cette position du lotus, déjà habillé et de s'habituer avec le regard de l'autre. Puis ensuite, on peut être déshabillé sans pénétration. Et puis ensuite, pénétration, mais pareil, pénétration, la partenaire peut tenir le pénis et elle-même jauger de la pénétration qu'elle a envie. Mais tout ça, toutes ces positions-là, il y a plein de choses qu'on peut détailler, déconstruire. Et c'est pour ça qu'aussi, bah, quand on est accompagné par des professionnels, on peut y aller aussi en progression, étape par étape, par rapport à ce avec quoi on est à l'aise ou finalement au moment T aussi. Hein.
Exactement, exactement. Et c'est vrai que ça peut être toutes les positions qu'on a citées là, dans cette progression justement que tu décris, je trouve que ça va être intéressant d'aller inviter tout ce qui est de l'ordre de la sensorialité, c'est-à-dire aller chercher l'exploration en fait des sens, et donc à travers les sens, c'est ce qui va être le plus grand vecteur de plaisir que l'on va pouvoir avoir, avant de retrouver tout de suite en fait l'aspect sexualité avec le contact génital et peut-être la pénétration, etc., etc., etc. Parce que arriver à retrouver du plaisir dans son corps, c'est aussi l'assurance de retrouver du plaisir dans son sexe. Et ça, parfois, il y a des personnes qui ont du mal à le saisir parce qu'elles ne se rendent même plus compte en fait qu'elles sont dissociées, qu'elles font véritablement une coupure en fait entre leur sexe et le reste de leur corps. Et arriver à retrouver cette harmonie au sein de soi, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse vous arriver.
Ouais. Puis des fois, il y a cette croyance aussi que quand il y a des douleurs, il n'y a pas du tout de plaisir. Alors, ça peut arriver pour certaines personnes, mais il y a d'autres personnes pour qui, en fait, il y a des douleurs à l'entrée, au début de la pénétration. Et puis après, une fois qu'il n'y a plus ces douleurs, bah, elles peuvent avoir des orgasmes et du plaisir. Et ça vient aussi les aider, les renforcer en se disant « Ok, j'ai quand même toujours accès à mon plaisir. » Et ça leur permet aussi de patienter, entre guillemets, dans ce processus, parce que je ne sais pas si tu le vois aussi, mais souvent, et on le comprend, parce qu'il y a une errance médicale, ça peut des fois faire des années comme ça, et il y a cette envie que là, maintenant, tout de suite, il faut que les douleurs cessent, quoi.
Exactement. Il y a un vrai empressement, ce qui est tout à fait compréhensible, hein. C'est tout à fait normal de vouloir justement arriver à trouver une solution par rapport à tout ça, mais c'est vrai que le fait de commencer à se lancer dans ce processus de rémission peut demander un petit peu de temps. Mais le fait que ça demande du temps, pour moi, c'est aussi finalement un espèce de voyage initiatique à travers la connaissance de vous-même. J'aime bien imaginer les choses comme ça, mais je trouve que parfois ça ressemble véritablement à ça, parce qu'on peut apprendre tellement de choses en fait à travers ces situations quand on a justement l'envie en fait d'être à l'écoute et à la découverte de soi, que ça peut véritablement prendre cette forme là. Mais tu as tout à fait raison, c'est nécessaire et essentiel de rappeler que ce n'est pas parce que vous avez des douleurs que le plaisir ne vous est plus accessible. Et c'est aussi pour ça, en fait, que je rappelle l'importance de la sensorialité, parce que c'est une voie d'accès au plaisir. Il y a différents types de plaisirs qui existent. Le plaisir génital, bien sûr, il va être important parce qu'on parle de sexualité, bien là tout de suite maintenant. Mais le plaisir gustatif, le plaisir de pouvoir observer quelque chose qu'on va interpréter comme étant quelque chose de beau, le plaisir du toucher, et pas juste du toucher sexuel, mais du toucher tendre, du toucher au niveau du corps, des caresses, du contact, du plaisir de ressentir certaines matières sur son corps, le plaisir de pouvoir aller humer des odeurs, l'odeur de votre café préféré, l'odeur de votre thé préféré, l'odeur du parfum de votre partenaire que vous adorez et qui vous ramène justement à des souvenirs plaisants. Tout ça, en fait, ce sont aussi des sources de plaisir. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, d'imaginer les choses comme ça. Si vous imaginez, en fait, que votre plaisir, c'est comme une espèce de on va dire une cruche. C'est pas très beau comme mot, mais une cruche. Imaginons que votre plaisir est une cruche et que cette cruche, en fait, elle va être remplie au fur et à mesure que vous allez ressentir du plaisir. Mais toute forme de plaisir, toutes les formes de plaisir que je viens de vous citer là qui sont en rapport avec vos sens. Quand vous allez avoir une cruche qui sera remplie à 50% par déjà toutes ces formes de plaisir et qu'en plus de cela, vous allez rajouter du plaisir sexuel, l'accession au plaisir sexuel sera d'autant plus facilitée que vous aurez déjà une cruche qui sera remplie. Votre batterie, si vous voulez, elle sera déjà remplie. Vous partez pas de zéro. Mais si, dans votre quotidien et dans votre vie de manière générale, le plaisir n'est pas présent, ou en tout cas, vous ne le sentez pas, vous avez du mal à l'identifier, vous avez du mal à le reconnaître, vous avez même du mal à accepter l'idée, en fait, que vous pouvez ressentir du plaisir tellement que vous êtes dans le mal et dans la détresse, vous partez avec une batterie qui est à zéro. Vous partez avec une cruche qui est vide. Et pouvoir partir de ce point de départ-là et aller directement à 100%, en tout cas une cruche remplie, une batterie qui est 100% remplie, qui est, on va dire, le plaisir et l'orgasme, pour les personnes pour qui ça a de l'importance, le fait de ressentir l'orgasme, ça va être plus compliqué. Vous imaginez bien que partir de 0 à aller à 100, c'est plus complexe que de partir de 50 et aller à 100. Le chemin à parcourir n'est pas le même. Et c'est pour ça que l'importance du plaisir avec un grand P, sous toutes ses formes, sous toutes ses variations, sous toutes ses nuances, a de l'importance. Et ça, vous pouvez continuer à le cultiver dans votre vie, dans votre quotidien, quand bien même vous avez des douleurs au rapport.
C'est bien important de le rappeler. Et alors, j'ai trois questions aussi d'abonnés qui m'ont été soumises ce matin. Et de manière vraiment, parce que tu ne peux pas tout détailler, mais vraiment donner des petites pistes comme ça assez rapidement. Alors, il y a une personne qui demandait déjà comment faire pour relâcher son périnée, parce qu'on sait que quand il y a des douleurs, c'est des fois parce qu'on a du mal à amener cette détente du périnée. Est-ce qu'il y a un outil que tu peux donner parmi tant d'autres, hein, mais comment on peut faire pour relâcher son périnée?
Alors, un des premiers outils que j'aurais proposé qui me semble assez facile d'accès. Il y a beaucoup de choses qui existent. Moi, en tant qu'inésithérapeute, la première chose auquel j'aurais pensé, c'est le massage périnéal. Mais ce n'est pas forcément ce que je vais aller conseiller en premier lieu, parce que si tant est que vous avez découvert le périnée, genre il y a 5 minutes quand on a prononcé ce mot-là, ou que vous ne savez pas où se situe ce muscle, ou comment est-ce qu'il fonctionne, ou à quoi il ressemble, le fait de vous parler du massage périnéal, c'est comme si je vous parlais de comment la NASA est en train de lancer une fusée sur Mars, quoi. Ça ne va pas forcément vous parler. Donc, quelque chose qui serait accessible pour moi, c'est déjà la prise de conscience de ce qu'est le périnée. Avant de vouloir commencer à détendre cette zone-là, il faut déjà que vous la connaissiez, que vous l'ayez identifiée et que vous sachiez quelles sensations y sont rattachées. Et donc, un excellent moyen de pouvoir prendre conscience de son périnée, ça va être à travers la respiration. Le fait d'aller ancrer une respiration thoracique et une respiration abdominale aux sensations du périnée va vous permettre de prendre conscience de toute cette sphère périnéo abdominaux, diaphragmatiques. C'est un package que notre corps a créé, qui est extrêmement important. Et le fait d'aller prendre conscience de cela à travers la respiration, tout le monde sait qu'on respire, tout le monde a compris l'importance de la respiration, sinon vous finissez raide mort et c'est pas ce qu'on veut. Donc respirer, prendre une inspiration profonde, une expiration profonde, où on a conscience que notre torse est en train de bouger, que notre abdomen est en train de se gonfler et de se dégonfler, et que au niveau du périnée, qui est situé finalement au niveau du petit bassin, donc c'est l'espace qui va être situé au niveau de la vulve, est lui aussi en train de bouger, qu'il bouge au rythme de votre respiration, ça va être une première chose. Le fait d'en avoir conscience va vous aider ensuite à pouvoir vous focaliser sur le temps expiratoire. Le fait de se focaliser sur le temps expiratoire, c'est le temps de la détente. C'est comme ça que notre corps fait cette association physiologiquement parlant. L'inspiration, ça va être le temps de mise en tension des tissus, et l'expiration, ça va être le temps de réduction des tensions. Donc on va pouvoir justement aller chercher une expiration plus profonde, une expiration plus longue, pour pouvoir justement accentuer cette sensation de détente au niveau du périnée. Vous allez pouvoir aller chercher cette prise de conscience en position allongée, mais aussi en position assise. Je trouve que la position assise, elle est plus adaptée parce que justement, le fait d'avoir un retour de contact au niveau de la chaise vous permet de sentir quand justement, au niveau de votre périnée, il y a moins de contact. Au moment de l'expiration, il y a quelque chose qui se décolle, on va dire, un petit peu de la chaise. C'est imagé, hein. Vous n'êtes pas en train de léviter sur votre chaise parce que vous expirez, mais il y a une diminution de la pression de cette zone-là au niveau de la chaise. Et ça va être intéressant pour pouvoir justement continuer à accentuer cette prise de conscience et aller de plus en plus vers cette notion de décontraction. Donc la première chose, en tout cas la chose la plus primordiale pour moi pour aller vers de la décontraction du périnée, c'est d'abord d'en prendre conscience et d'accentuer cela à travers des exercices respiratoires très 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 simples.
Voilà. Merci. Justement, quand tu le faisais, j'étais en train de le faire aussi, d'inspirer, d'expirer, de sentir mon périnée. Et petit partage aussi par rapport à ça, tu vois, en tant que sexologue, je me suis massée, j'ai fait le massage périnéal avant l'accouchement, j'ai conscience de mon périnée. Et pourtant, en postpartum, j'ai bien eu du mal à apprendre à cette détente du périnée en termes de sensations. Vraiment, j'étais en manque de sensations et c'est là où on va voir que c'est important d'être accompagnée. C'est vraiment grâce à ma kiné qui avait vraiment les doigts dans le vagin. Je lui demandais vraiment de le mettre et de venir appuyer pour que je sente en fait ce que c'est dans le corps, cette détente. Et c'est là où tout s'est connecté, où vraiment ça a même fait sens pour moi quand on parlait de cette fleur. Voilà, les pétales qui s'ouvrent et qui se ferment souvent, c'est ce qu'on dit. Mais avant, pour moi, j'essayais, je me disais, mais ça ne fait pas sens. Parce que pour moi, je suis quelqu'un qui passe aussi par le corporel, par la sensation. Et là, vraiment, c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris, en fait, vraiment le relâchement du périnée. Donc, vraiment de vous encourager, si ça, c'est difficile, et vous pouvez le faire avant même d'accoucher ou que vous n'ayez pas envie d'enfant, enfin, de le faire avec une kiné pour vraiment conscientiser ce périnée si c'est difficile de le faire seul aussi.
Effectivement. Et dans l'exercice que je viens de proposer, une variante qui est tout à fait accessible, c'est simplement pour vous, en fait, de poser votre main à plat au niveau de votre vulve et de pouvoir justement sentir ce contact, en fait, justement, du périnée qui va varier et qui va monter et redescendre au fur et à mesure de votre respiration. Si le simple fait de l'imaginer, vous avez du mal, comme tu viens de le dire, Camille, à pouvoir le conscientiser, rien de tel, en fait, que le contact direct avec une main posée au niveau de votre vulve pour pouvoir en avoir conscience. Il n'y aura pas de meilleur retour d'information en fait que celui-ci. C'est vrai qu'on explique beaucoup de choses parce que pour nous, en fait, ça fait sens. C'est des choses qu'on a déjà expérimentées dans notre corps à travers notre propre cheminement. Mais pour beaucoup de personnes, en fait, c'est loin d'être évident, tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu les connaissances anatomiques et physiologiques autour de cette sphère-là. Et aussi, en fait, que la prise de conscience du corps, en fonction des expériences de vie qu'on a eues, en fait, c'est pas si évident. Il y a des gens qui ont du mal à investir leur corps, il y a des gens qui ont du mal à se connecter à leurs sensations. Donc, aller spécifiquement se connecter aux sensations du périnée, ça peut être encore plus compliqué. Donc, quand je suis face à des patientes comme ça, moi je leur dis, mais vous mettez directement la main dessus. Vous êtes habillée, vous vous mettez en culotte et vous mettez la main dessus. De toute façon, la cartographie, elle n'est pas compliquée. C'est ce qu'il y a entre vos cuisses. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et même si vous avez le doigt au niveau de l'anus, ça reste quand même le périnée. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous mettez la main dessus et vous écoutez ce qui est en train de se passer. Et là, souvent, il y a un déclic qui se fait parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas se tromper.
Donc vraiment, vraiment important d'être accompagnée aussi là-dessus. Et comme tu dis, des outils et passer par le corporel, quoi. Il n'y a pas photo. La deuxième question qui est revenue, et ça, c'était intéressant parce que je te la pose et comme ça, je vais voir ta réaction. Une personne qui dit, c'est quoi les douleurs normales lors d'un rapport ?
Nan ! Il n'y a pas de douleur normale !
Voilà. On n'est pas censé avoir mal. Mais la question soulève que quand même, du coup, pour cette personne et pour plein d'autres, en fait, que d'avoir mal, c'est quand même, ça fait quand même partie de la norme. Mais du coup, jusqu'à quel point c'est OK ou pas OK ? Mais en fait, non. D'avoir mal, c'est un signal d'alarme à écouter. Et du coup, ça demande d'être accompagné, quoi.
Exactement. Alors, je vais expliciter un petit peu ma réaction. Mais c'est exactement le genre de choses qui me font réagir de manière très énergique, comme tu vois.
Ouais. Non, alors, elle est intéressante, cette question, hein. Même si on peut se dire, ça coule de source. Mais non, pour beaucoup, ça ne coule pas de source.
Non. Alors oui, non, que la personne qui a posé cette question et qui peut-être écoutera le podcast ne le prenne pas pour elle. Hein. Ce n'était pas un non, c'est une question qui n'a pas de sens, pas du tout. C'est une question qui revient beaucoup. C'est une question qui est tout à fait légitime et pertinente. Mais c'est une question qui, moi, me fait réagir parce que je trouve extrêmement injuste le fait que beaucoup de personnes puissent considérer en fait que avoir des douleurs, en fait, c'est normal. Ce n'est pas normal. Je pourrais faire un cours d'histologie, d'histoire, de sociologie, de ce que vous voulez, qui pourrait expliquer pourquoi les douleurs ne sont pas normales, mais on va rester sur quelque chose de simple et d'accessible, parce qu'on n'a pas non plus 4 heures devant nous. Mais les douleurs ne sont pas normales, déjà parce que la douleur, quel que soit le type de douleur que vous ressentez, la douleur est un signal que votre cerveau vous envoie pour vous indiquer qu'une zone de votre corps a un problème. Donc, si on pose les choses comme ceci déjà, la douleur est une information. La douleur est un signal. Si vous vous cognez le pied contre une chaise, vous n'allez pas trouver ça normal. Vous allez savoir en fait que vous avez mal au niveau de votre pied parce que votre cerveau est en train de vous dire que là, tu t'es cogné. Je te dis que ça fait mal. Parce que ça peut être intéressant que tu ailles vérifier en fait que, un, tu n'as rien de cassé, ou que ton gros orteil n'a pas doublé de volume, ou qu'il n'est pas ouvert en deux. Juste va vérifier parce qu'on ne sait jamais. C'est ça que ça veut dire en fait la douleur. La douleur vous invite à aller prêter attention à une zone de votre corps qui, a priori, a peut-être un problème. Et pour éviter que la situation ne s'aggrave, on vous donne cette information de la douleur pour vous obliger à aller y regarder avec attention. Imaginez une situation où vous vous cognez le pied et vous n'avez pas mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez créé une entaille au niveau de votre pied et que vous avez continué à marcher sans chaussons. Et que du coup, vous avez pris de la poussière au niveau de cette plaie, et que cette plaie est en train de s'infecter. Mais vous n'avez pas mal, vous ne vous en rendez pas compte. Résultat des courses, vous finissez avec un pied amputé. Bon, j'exagère, c'était un gros raccourci.
Mais c'est très imagé du coup, je pense que ça va parler. Ouais.
Mais c'est pour vous faire comprendre que la douleur est une information qui est nécessaire et qui est pertinente. Il y a beaucoup de personnes qui, quand elles sont dans une situation où elles ont des douleurs récurrentes ou des douleurs chroniques, finissent par véritablement, en fait, détester leur douleur. Et c'est tout à fait compréhensible parce que c'est une situation, en fait, qui dure depuis trop longtemps. Mais quand on reprend les choses pour ce qu'elles sont, la douleur est une information qui est nécessaire. Et le fait de ressentir des douleurs au niveau de votre sphère périnéale, au niveau de votre sphère vulvaire, au niveau de votre vagin ou n'importe quelle zone qui est en rapport avec votre génitalité, c'est une information qui a pour but de vous indiquer qu'il y a quelque chose de pas normal qui est en train de se situer à cet endroit-là. Et ça vous demande d'aller y prêter attention. La technique de l'autruche, en se disant « ça ira mieux demain », n'est pas une bonne stratégie. Vous faites ce que vous voulez, mais d'après mon expérience, ça vous amène plutôt à aller vers des douleurs plus chroniques ou des douleurs plus accentuées ou des douleurs plus récurrentes et ça ne résout pas le problème. Il y a des choses qui peuvent être de rémission spontanée si c'était une petite infection et que hop, votre corps a trouvé les ressources nécessaires pour aller retrouver le bon équilibre au niveau de son pH, etc. et on n'en parle plus. Mais c'est pas, il n'y a pas que ces situations-là qui existent et quand on est dans une situation qui est un peu plus complexe, ça va être nécessaire d'aller adresser ces douleurs, les comprendre, les diagnostiquer et les traiter correctement. Donc non, les douleurs, il n'y a pas de douleur normale. La douleur, c'est toujours une information qui vous demande d'aller regarder qu'est-ce qui se passe.
Oui, qui nous demande d'aller regarder ce qui se passe et partage l'expérience encore par rapport à mes douleurs post-accouchement. C'est vraiment aussi... la douleur m'a accompagnée dans ma rémission, finalement. Je suis allée écouter ce que cette douleur disait. Donc, OK, on prête attention, je vais aller voir les professionnels. Effectivement, il y a une inflammation en interne, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et puis moi-même, en pratique, qu'est-ce que je peux venir ajuster? Une position du coup, tiens, la douleur, là, elle réduit de volume, etc. Et donc, on s'accompagne. Et c'est un petit peu vraiment, pour moi, c'était vraiment comme un... Quand on accouche et le travail avec les contractions, c'est pas d'en avoir peur de ces douleurs, mais c'est qu'elles nous envoient un message de changer de position, de venir inspirer, de venir de se mettre dans sa bulle. Enfin, voilà, comme tu disais, c'est d'écouter ces douleurs, sinon, en fait, elles deviennent de plus en plus fortes. L'alarme, elle retentit de plus en plus fort parce que, bah, ding, 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 et prête attention, quoi. Donc vraiment, très, très pertinent et intéressant ce que tu partageais par rapport à ça. Donc, non, ce n'est pas normal d'avoir mal et donc il faut pouvoir écouter ces douleurs. La troisième question d'une abonnée, c'est alors cette abonnée a de la vulvodynie. Donc la vulvodynie, c'est une douleur vulvaire persistante chronique qui peut résulter d'un dysfonctionnement du système de modulation de la douleur. Donc pareil, il y a une douleur, il y a un signal d'alarme et donc il faut prêter attention. Et donc elle posait la question, est-ce que tu as des conseils pour atténuer des douleurs après un rapport? Donc là, après le rapport avec pénétration en cas de vulvodynie.
Alors, la première chose que j'aurais conseillé, c'est le fait d'aller utiliser... Alors, il peut y avoir différentes choses. De préférence, utilisez toujours des produits qui sont assez simples et assez sains. J'insiste, les trucs parfumés ou les trucs avec des paillettes, là, laissez ça tranquille. Hein. Vraiment, n'allez pas mettre ça au niveau de votre vulve, au niveau de votre vagin, ou même au niveau de votre corps. Faites attention à ces choses-là. Il y a plein de choses, c'est néfaste dedans. Donc, le dernier endroit où vous avez envie que ça aille, c'est bien au niveau de votre vulve. D'accord ? Donc, c'est un petit warning que je dis en rigolant, mais c'est vraiment pas drôle. Quand j'ai des patientes qui reviennent et qui me disent ce genre de choses-là, parfois, je pleure intérieurement. Je garde une poker face, mais je pleure intérieurement. Donc, ce que j'aurais conseillé, c'est d'utiliser par exemple des baumes vulvaires ou bien des huiles. Il y a des huiles toutes simples, hein, des huiles d'amande douce, de l'huile de nacre. Qu'est-ce qu'on a encore
L'huile de coco, tu recommandes? Karité?
Karité, ouais. Karité, j'aime bien. Huile de coco aussi. Parfois, il faut faire attention parce qu'en fonction du type de pratique, si. Enfin, quoi que tu. Non, tu as bien spécifié que c'était après. Donc, si c'est après un rapport, ça pose pas de problème. Donc, huile de coco, oui, aussi. Mais en tout cas, voilà, des baumes vulvaires comme ça, ou des huiles végétales qui vont justement pouvoir aller redonner, en fait, une couche protectrice au niveau de la muqueuse vulvaire et qui va aider justement à réduire cette sensation justement de picotement, de brûlure, d'inflammation. Ça va permettre de venir un petit peu calmer le système nerveux et le système épidermique en allant utiliser ce genre de choses-là. Après le rapport aussi, faire pipi, très important, ça aide aussi en fait à relâcher le périnée et ça permet d'avoir l'assurance de ne pas avoir de risque infectieux parce qu'il y aurait justement un petit peu de bactéries qui continueraient à se balader au niveau de la zone urétrale. Aller faire pipi, ça va être très important. Ne pas hésiter aussi à aller faire une petite toilette à l'eau, hein. N'allez pas me mettre un Karcher, n'allez pas m'utiliser un parfum, de l'eau c'est bien, vraiment l'eau c'est très très bien.
On fait simple, le plus simple est le mieux.
Exactement, less is more. Donc l'eau, une bonne petite toilette tranquille avec de l'eau, pas de douche. Le pommeau de douche n'a pas vocation à être dans votre corps, mesdames et messieurs, vraiment, je vous le dis. Le pommeau de douche a vocation à rester à l'extérieur de votre corps, pas dans votre corps. Donc, une petite douche, un petit peu d'eau, histoire d'aller retirer toutes les sécrétions, les différences de pH, etc., pendant qu'on a été joué avec sa partenaire. Très, très bien. Petite douche, ensuite application d'huile végétale, un petit baume vulvaire éventuellement aussi en fonction de ce qu'on va apprécier. Il y a des marques qui sont très sympas. Allez utiliser de préférence aussi. Alors, moi je suis team no slip. Révélation. Moi, je suis team no slip. Vraiment, j'estime que le sexe est une partie du corps qui a besoin de respirer. Donc du coup, moins il y a de tissu dessus, mieux ça peut se porter. Mais
Dire qu'il y a des frottements, du coup, les frottements avec le jean qui vont venir renforcer une inflammation peut-être.
Alors, ça va dépendre. Moi, je parle d'une situation où on a eu notre petit moment d'intimité, on est à la maison et on va continuer à évacuer ses occupations tranquilles. Normalement, je sais pas pour vous, mais
on peut se mettre en pyjama.
On peut se mettre en pyjama ou on peut mettre un petit short un petit peu lâche, etc., qui fait qu'il y a zéro contact avec zéro tissu. C'est quand même l'idéal, tu vois. Mais effectivement, après, si on est dans un truc où ça s'est plutôt passé le matin et qu'après on va repartir au travail, bah là, mettez un slip. Mais préférez plutôt une culotte en coton. Quelque chose, un tissu en fait qui sera le plus organique possible avec le moins justement de matière un petit peu synthétique dedans qui vont justement plutôt aller recréer de la friction et de l'inflammation au niveau de la sphère vulvaire. Donc si vous mettez un slip, préférez les slips en coton. Si vous avez la possibilité de rester tranquillement à la maison, no slip, tranquille, on laisse la zone respirer, c'est très bien.
Alors là, il y a une question qui me vient et que peut-être certaines personnes qui écoutent vont se poser la même question. Là, comme ça a pris un rapport, et imaginons un rapport sans préservatif et qu'il y a une éjaculation, il y a aussi un écoulement. Et donc là, se pose la question, ok, c'est bien gentil sans slip, mais du coup, ça coule tout le long de mes jambes. Ou alors, une culotte en coton, mais si j'ajoute un protège-slip aussi, voilà, tu vois.
Oui, alors c'est vrai que je ne suis pas trop, trop fan du protège-slip pour toutes les raisons que j'ai évoquées juste avant, hein, parce qu'il y a pas mal de choses assez chimiques, en fait, dans ces choses-là. Alors, oui, je sais qu'il y a maintenant des protège-slip qu'on peut trouver en magasin bio qui, a priori, sont moins néfastes, en tout cas au niveau de leur composition. Mais bon, je reste toujours pas très, très fan, en fait, de ces choses-là. Si c'est utilisé de manière très, très occasionnelle, bon, voilà, si c'est une fois, tous les, bon, pourquoi pas. Mais quand ça a tendance à être récurrent, pour moi, c'est quelque chose qui vont plutôt avoir tendance, en fait, à aller accentuer le bouillon de culture que l'on va pouvoir avoir, en fait, au niveau des pertes et au niveau aussi un écoulement, justement, de sperme. Le sperme, effectivement, il va gentiment rester là, près de la muqueuse vulvaire, avec une différence de pH qui peut aller, justement, réactiver l'hypersensibilité vulvaire. Donc, merci, mais non merci. Voilà. Donc du coup, effectivement, c'est vrai que c'est pas forcément hyper confort, mais pour le coup, je trouve que bah, repasser aux toilettes et au moment où on fait pipi, aller essuyer justement le petit écoulement de sperme qu'il y a eu, ça peut être une bonne option. Ou une autre option aussi, et là par contre, je vous invite à bien faire attention, encore une fois, aux compositions de ça, mais vous avez aussi les culottes menstruelles. Vous avez des culottes menstruelles ou des serviettes menstruelles qui sont faites uniquement à base de tissus type coton ou de ce genre de choses-là. Ça peut être aussi une option. Ils font aussi des formats du coup plus petits, format protège-slip. Et ça, je trouve que c'est moins néfaste pour des personnes qui auraient des vulvodynies que d'aller utiliser même un protège-slip acheté en magasin bio, parce que je suis pas trop fan. Ouais. Voilà.
Merci pour ça. Et puis souvent aussi ce que je dis, ce qu'on peut faire, c'est si jamais il y a une éjaculation, ça peut être aussi en dehors du corps, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de dealer avec justement ces pertes. Alors bien sûr, il y a besoin après de se nettoyer, mais comme tu as dit, on peut déjà passer par un petit nettoyage après, mais au moins on est tranquille après, il n'y a plus rien qui coule.
Exactement, je suis tout à fait d'accord.
Super, merci pour toutes tes réponses. Alors moi j'ai ma question finale. Si les personnes ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait pour toi la première chose qui te vient en tête ?
Alors pour moi, la première chose qui me vient en tête, c'est que la sexualité et l'éducation sexuelle doit être tournée vers le plaisir. Vers le plaisir et rien d'autre. Parce que au jour d'aujourd'hui, la sexualité est le lieu de beaucoup d'injonctions. De beaucoup d'injonctions à travers le genre, à travers l'orientation sexuelle, à travers ce qu'on va attendre des rôles de genre aussi, à travers les scripts sexuels, à travers beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On va retrouver beaucoup d'injonctions dans la sphère de la sexualité, mais on en oublie le plaisir. Le plaisir que l'on ressent pour soi-même, par soi-même, à travers son propre corps, et le plaisir partagé avec son ou sa partenaire. Je trouve que quand on reste orienté vers cette recherche du plaisir en solo, mais aussi en duo, ou même à plus d'ailleurs, si ça vous avez envie, faites ce que vous voulez. Ce qui en ressort en fait, c'est que quand on est dans cette recherche de plaisir, et que c'est une recherche de plaisir qui est saine, on peut rarement se tromper. On peut rarement se tromper parce que si on est orienté vers une recherche du plaisir, mais que ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train de vivre ne nous procure pas de plaisir, on sait tout de suite en fait qu'on n'est pas forcément sur la bonne route. Ou qu'il y a quelque chose à moduler ou à réguler en fait, dans notre pratique ou dans notre façon en fait, de relationner avec cette personne-là. Donc, pour rester simple, je dirais que notre éducation sexuelle et notre sexualité devraient toujours être orientées vers le plaisir. Et le plaisir, comme on en a parlé pendant l'épisode, il peut prendre énormément de formes. Et c'est ça, je trouve, toute la beauté de la sexualité, ça va être de pouvoir prendre le temps d'aller explorer, d'aller découvrir tous ces versants, toutes ces versions du plaisir qui existent pour savoir lesquelles, en fait, nous correspondent le plus, nous correspondent le mieux. Et ces différences, finalement, elles vont se faire au fur et à mesure du temps parce qu'on n'est pas la même personne. On n'est pas la même personne à 18 ans que la même personne à 35 ans et on n'est pas la même personne à 75 ans non plus. Il va y avoir plein de choses qui vont changer et le fait de continuer à rester ouverte et ouvert d'esprit sur cette recherche du plaisir, je trouve que c'est quelque chose d'absolument essentiel et nécessaire.
Le plaisir, merci. Et c'est chouette de terminer par ça, le plaisir, alors que notre épisode est sur les douleurs. Donc, on voit vraiment cette diversité aussi dans la sexualité. Astrid, merci beaucoup. Je mettrai du coup dans les notes du podcast ton épisode, ton podcast, Exploratrice de l'intime, et l'épisode aussi qu'on a réalisé ensemble. Un grand merci, Astrid, pour tout ce que tu nous donne comme information par rapport à ton métier, par rapport à tes connaissances et puis ta bienveillance. Donc, merci encore pour tout ça, Astrid.
Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir de partager cet épisode avec toi, Camille.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous m'écoutez en ce moment, c'est que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses, ça je l'espère. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux ou encore mieux, de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcast. Si vous avez des suggestions d'invités ou de thématiques, n'hésitez pas à me le dire sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe où je partage également des informations. Si cet épisode vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à peut-être des patientes, des clients ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À tout bientôt.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.